Je vais présenter maintenant donc notre conférencier du jour et la conférence. Il s'agit de Philippe Mérieux. Le titre de sa conférence, c'est « Enseigner le devoir de transmettre et les moyens d'apprendre ». Philippe Mérieux est né en 1949. Il est actuellement professeur en sciences de l'éducation à l'université Louis Lumière à Lyon 2, donc à Lyon. Il est de formation une licence et maîtrise de philosophie. Il a commencé par être instituteur. Il a un DEA de sciences de l'éducation. Il est docteur d'état en lettres et sciences humaines et spécialiste donc de sciences de l'éducation, poste qu'il occupe actuellement. Il a été professeur de philosophie dans l'enseignement secondaire, professeur de sciences de l'éducation à l'université depuis 1987. Vous avez entendu parler de lui et de son influence dans la réflexion sur l'enseignement dans les dix dernières années. Et de 1998 à 2000, il a été directeur de l'Institut national de recherche pédagogique. Ses publications sont très nombreuses, donc je vous renvoie les avoir au complet au site de la mission. Mais j'en signale quelques-unes, qui ne sont pas forcément d'ailleurs dans l'ordre chronologique, dans le document que j'ai. Par exemple, Le choix d'éduquer, éthique et pédagogie, de 1991, 6e édition, 1997. L'école ou la guerre civile, chez Plon, en collaboration avec Marc Guiraud, en 1997, toujours. Enseigner, scénario pour un métier nouveau, c'est un livre plus ancien. J'ai repéré les titres qui m'intéressaient plus particulièrement. Enseigner, scénario pour un métier nouveau, 1989, EESF édition, 8e édition, 1995. La pédagogie entre le dire et le faire, le courage des commencements, 1995. Et puis, qui vient de paraître, École, parents, enseignants, la grande explication chez Plon. Je vais donc lui donner la parole pour 50 minutes. Ensuite, il répondra à vos questions. Je précise simplement, compte tenu de la charge éventuellement polémique, non pas qu'il peut y avoir dans la conférence, vous verrez que ce n'est pas le cas, mais des discussions qu'il y a eu autour de l'enseignement, que je vous demanderai de vous abstenir de questions portant sur les personnes. Un des questions. Merci.
Merci beaucoup Yves Michaud, merci à vous d'être là, merci surtout à l'Université de tous les savoirs de m'accueillir ce matin et de reconnaître ainsi implicitement l'existence de ce qu'on pourrait appeler des savoirs pédagogiques, qui ne sont pas nécessairement des savoirs scientifiques, qui ne sont pas non plus des savoirs philosophiques, qui sont sans doute plus proches de ces arts de faire dont parlait Michel de Certeau. Enseigner, donc, le devoir de transmettre et les moyens d'apprendre. Saint Augustin écrivait au 5e siècle de notre ère, « Qui donc, disait-il, chercherait le savoir de manière si insensée qu'il envoie son fils à l'école pour apprendre ce que pense le maître ?» Dans un univers marqué aujourd'hui par un pluralisme que tout le monde s'accorde à reconnaître, et dans un univers qui voit vaciller beaucoup de certitudes et de consensus, paradoxalement, la question d'Augustin est plus que jamais d'actualité. Qui donc chercherait le savoir de manière si insensée qu'il envoie son fils à l'école pour apprendre ce que pense le maître ? Pourquoi envoyons-nous nos enfants à l'école ? Que voulons-nous qu'on leur transmette ? Notre héritage, disait René Char, n'est précédé d'aucun testament, et il est vrai qu'aujourd'hui, nous ne savons plus très bien ce que nous devons léguer à nos enfants. Parents, enseignants, experts, politiques semblent incapables de s'accorder sur les finalités de l'enseignement. L'école, et je parlerai aujourd'hui d'une manière spécifique de l'école obligatoire pour tous jusqu'à 16 ans, de telle manière à ne pas mélanger les niveaux, je ne parlerai pas bien évidemment de l'université ni de la formation continue, l'école est écartelée entre des fonctions multiples et contradictoires. Enseigner la maîtrise des langages, initier aux nouvelles technologies, transmettre un patrimoine, permettre la compréhension des situations contemporaines, prendre en compte des différences de plus en plus flagrantes et garantir aussi une culture commune, faire réussir aux examens et apprendre les règles de la vie en société, former au respect de l'environnement, à la sécurité routière, éduquer à la santé, prévenir le sida, informer sur les dangers des toxicomanies et bien d'autres choses encore. Et l'école doit faire cela à de plus en plus d'élèves, car c'est tout à notre honneur. Notre société tolère de moins en moins que subsistent des poches de résistance et d'ignorance auxquelles nos prédécesseurs se résignaient avec plus ou moins de facilité. Mais de fait, il y a bien une inflation des missions de l'école qui aboutit inévitablement, me semble-t-il, à une difficulté en matière de légitimité des savoirs enseignés, au point que beaucoup de situations d'enseignement que je suis amené à observer en me déplaçant dans les établissements scolaires, en particulier dans les collèges, ressemblent parfois et très étrangement à des sortes de conflits d'opinion. Le maître a une opinion, il la défend, l'élève en a une autre, il la défend plus ou moins. L'un des deux doit céder dans un rapport de force que rien ni personne ne semble pouvoir arbitrer. Certes, c'est le plus souvent l'élève qui cède, mais en parlant avec eux, on s'aperçoit que c'est sur un mode essentiellement concessif. Il consent à se plier provisoirement à l'enseignant et à ce que celui-ci lui dit. Il consent à croire et à faire ce qu'on lui demande, tout en se réservant par ailleurs la possibilité de dénier la moindre valeur à ses activités scolaires dès qu'il franchira la porte de la classe. Ainsi, un des éléments qui me paraît caractériser beaucoup de situations scolaires aujourd'hui, c'est que l'enseignement, même quand il s'effectue dans une école publique, se joue bien souvent dans une enceinte et dans un registre privé. Privé parce que sur le mode du conflit d'opinion, privé d'une légitimité externe, privé de cette légitimité au point que l'enseignant doit souvent à chaque instant, chaque fois qu'il entre dans la classe, réussir à imposer l'ordre scolaire, à imposer les savoirs qu'il enseigne et à s'imposer comme enseignant. S'il y a crise de l'école, comme on le dit ici ou là, peut-être est-elle d'abord ici, dans cette difficulté de trouver une référence stable, un enjeu commun accepté par toutes les parties, dans cette montée de ce que j'appellerais des situations d'affrontement, ouvertes ou sournoises, qui me semblent bien plus caractériser l'école que les situations plus visibles et plus médiatisées de violence. Affrontement entre des enfants, des élèves, des adolescents, qui refusent ou rechignent à entendre ce que leur disent les enseignants, à subir ou à accepter la discipline scolaire, à jouer le jeu que leur impose l'institution. Une telle situation, avec la multiplication de ces affrontements et des effets à la fois sociologiques et psychologiques sur les enseignants, qui sont importants, requiert de toute évidence un traitement d'abord politique. À mon sens, la question des savoirs à enseigner et des objectifs de la scolarité obligatoire ne pourra plus continuer à être traitée de manière empirique au gré des rapports de force entre les différents groupes de pression. Les soubresauts réguliers de l'institution scolaire montrent à quel point il est impossible de faire évoluer les choses si l'on travaille par ajout et amputation de circonstances. Une telle méthode ne parvient, on le voit, qu'à stabiliser de fragiles équilibres au détriment de véritables cohérences et d'une véritable cohérence de la formation. Plus grave encore, me semble-t-il, cette situation installe au sein même de l'institution scolaire un débat qui, à mon sens, ne peut pas, ne doit pas être tranché en interne. Ma conviction, c'est que la légitimité des enseignants et des savoirs qu'ils enseignent ne peut venir précisément que de l'extérieur de l'institution scolaire. Leur mission, la mission des enseignants, intellectuelle, sociale, politique, doit être définie par la nation, et à mon sens, chaque fois qu'ils cherchent à se substituer à elle, alors qu'ils croient renforcer leur légitimité, ils l'affaiblissent. Ils l'affaiblissent en croyant trouver en eux-mêmes la force nécessaire pour imposer ce qu'ils sont chargés de faire, leur mission, leur métier. Affaiblis, les enseignants doivent ensuite s'imposer aux élèves et à leurs parents, s'imposer à un corps social qui n'a pas été partie prenante de la définition de leur mission et qui apparaît de plus en plus étranger à celle-ci. Il me paraît donc urgent, et beaucoup d'experts aujourd'hui, semble-t-il, s'accordent sur ce point, que la représentation nationale, le Parlement, se saisisse d'un certain nombre de questions essentielles de l'éducation nationale et, en tout premier lieu, des questions afférentes à la mission de la scolarité obligatoire. Il me semble essentiel d'en stabiliser très vite aussi bien les contenus, programmes et objectifs de fin de cycle, que les modalités, en particulier dans le domaine de l'hétérogénéité des classes, où règne la plus totale hypocrisie, des recours en cas de difficulté pour les élèves ou même des procédures d'orientation. Mais aussi nécessaire que soit cette entreprise à caractère politique, elle ne permettra pas, me semble-t-il, de faire l'économie d'une réflexion proprement pédagogique sur ce qui se joue dans le rapport entre l'enseignant et l'apprentissage. Dès lors que nous voulons, et notre société le veut frénétiquement, démocratiser l'accès au savoir et ne pas réserver ceci à ceux qui en font la demande ou qui savent pourquoi et comment se les approprier, il n'est plus possible de laisser fonctionner massivement ce qui a été décrit longuement par les sociologues comme l'aléatoire des complicités sociologiques. Il nous faut nous doter d'outils d'intelligibilité de la chose éducative et en particulier de moyens pour comprendre la résistance des élèves qui refusent ou qui ne parviennent pas à apprendre. Entendons-nous bien, il y a toujours eu des élèves qui refusaient ou ne parvenaient pas à apprendre, mais notre société tolérait parfaitement leur existence et disposait de recours en externe pour encadrer ses enfants. Ce qui me paraît caractériser, et qui est tout à l'honneur de notre société, notre démarche aujourd'hui, c'est que précisément, aussi bien les parents que le corps social tout entier ne tolèrent plus cette résistance et cherchent à faire apprendre ceux qui précisément ne demandent plus spontanément à le faire. Or précisément, en tant qu'historien de l'éducation et de la pédagogie, il me semble que les pédagogues, ou ce que l'on a appelé comme tels, qui ne sont pas les didacticiens, ont une petite avance dans ce domaine. Tout simplement parce qu'ils se sont donnés, chacun à leur époque et dans un contexte particulier, le projet d'enseigner à ceux qui, alors, étaient réputés inéducables. À cet égard, la modernité éducative commence, à mon sens, avec un homme comme Pestalozzi, 1746-1827, quand ce disciple de Rousseau, confronté à ceux qui étaient alors des barbares qui ne veulent pas de lui, décide délibérément de ne pas les abandonner, mais de ne pas non plus les instruire au forceps. Il s'entête au contraire à les accompagner, dit-il, pour que chacun, selon la belle formule qu'il propose, puisse se faire œuvre de lui-même. L'entreprise de Pestalozzi inaugure la modernité éducative parce qu'elle est pour la première fois l'effort d'un homme pour aller enseigner à ceux qui le rejettent ou à ceux qui tout au moins ne le demandent pas. Une telle entreprise se poursuit, le plus souvent d'ailleurs aux marges d'une institution qui tolère mal les barbares, avec des hommes et des femmes aussi différents que le docteur Itard, que Joseph Jacotto, que Froebel en Allemagne, Francisco Ferrer en Espagne, Makarenko en Union soviétique, Maria Montessori en Italie, Korczak en Pologne, Freinet en France, Don Milani en Italie encore, Paulo Freire au Brésil ou Fernand Houry qui est décédé récemment. Chaque fois, le pédagogue, cela et bien d'autres, fait le pari que celui qui a été rejeté hors du cercle du langage et de la culture, celui qui a été réputé inéducable, peut accéder à la fois au langage et à la culture si on lui en donne les moyens, si l'on réussit à trouver un chemin entre l'abandon et le dressage, si l'on s'est inventé les moyens pour susciter le désir d'apprendre et de grandir. On voit ici que c'est bien, pour ma part, dans la tradition proprement pédagogique que je m'inscris, beaucoup plus que dans la tradition qui marque mon appartenance à une section universitaire qui est celle des sciences de l'éducation. Je me réclame de cette tradition pédagogique et je crois, j'espère, que celle-ci peut nous permettre de comprendre, à travers des textes qui sont aujourd'hui très largement oubliés et méconnus, un certain nombre de difficultés que nous rencontrons encore quand il s'agit d'enseigner. Trois éléments trois séries de remarques dans cette conférence. Première série de remarques, je rappellerai, mais c'est une banalité, une évidence, que transmettre est pour l'homme un impératif et que la transmission, à ce titre, nous ne pouvons pas y échapper. Deuxième série de remarques, j'essaierai de montrer que pour les pédagogues, transmettre est à la fois un impératif, mais c'est aussi une impasse. Et enfin, dans une troisième série de remarques, je tenterai de montrer que pour les pédagogues, transmettre, c'est proposer des moyens d'apprendre. Première série de remarques donc, transmettre est un impératif et ne pas transmettre une démission. Je serai très rapide, car chacun d'entre nous sait ici qu'il n'est aucun exemple d'être humain qui ait pu atteindre le statut d'adulte sans que soient intervenus dans sa vie d'autres êtres humains, adultes ceux-là. Le livre de la jungle de Kipling est une fable où les animaux sont plus humains que les humains, et tous les enfants sauvages qui ont été identifiés ici ou là, vous le savez, ont abouti dans l'immense majorité des cas, dans la totalité des cas, des échecs en matière d'éducation. L'enfant vient au monde infiniment démuni et il ne peut grandir que s'il est introduit dans le monde, si des adultes font les présentations et prennent en charge son arrivée dans la maison. Là, il lui faut apprendre les règles de ceux qui l'accueillent, ce qui n'est jamais facile. L'intégration dans la domus est toujours une entreprise de domestication, une affaire d'horaire à respecter, d'habitude à prendre, de code à acquérir, d'obligations auxquelles il faut bien se soumettre. L'homme se caractérise, explique aussi bien les anthropologues que les chercheurs en sciences cognitives, par son fabuleux pouvoir d'apprentissage, mais le revers de la médaille, c'est que précisément l'enfant doit tout apprendre de ce qui lui permettra de vivre avec ses semblables. C'est pourquoi celui qui est éduqué ne peut pas choisir lui-même ce à quoi il doit être éduqué. Nos enfants ne choisissent pas la langue dans laquelle ils vont s'exprimer, les coutumes avec lesquelles ils vont vivre, pas plus qu'ils ne pourront à l'école choisir les disciplines qu'ils vont devoir apprendre pour s'intégrer dans la société. Si l'enfant, si l'adolescent, si l'élève pouvait choisir ses objets d'apprentissage, c'est qu'il serait déjà éduqué. Aucun appel au respect, entre guillemets, ne peut justifier ici l'abstention éducative. L'adulte a un impératif devoir d'antécédence, il antécède, et il ne peut jamais abandonner l'enfant sans l'inscrire dans une histoire. Sans doute, cette question de la transmission se posait-elle moins aux maîtres, aux enseignants, hier, qu'elle ne se pose aujourd'hui. C'est Hannah Arendt, dans un texte célèbre de la crise de la culture, qui explique en effet que les écoles héritent maintenant d'un rôle qui était traditionnellement dévolu aux familles. Il n'y a pas si longtemps, en effet, les différences d'une génération à une autre étaient relativement minimes. Les générations se superposaient assez largement l'une sur l'autre, de telle manière que le lien entre elles était assuré en quelque sorte par imprégnation. Il se transmettait dans les premières années de la vie, dans la quotidienneté de ces premières années, toute une culture qui sédimentait et permettait à la culture scolaire de se développer sur un acquis relativement stabilisé. Entre nos grands-parents et nos parents, beaucoup de choses n'ont pas été délibérément apprises. Elles ont été transmises dans une lente assimilation, sans que l'on y pense vraiment, ni que cela soit le résultat d'une action ordonnée et systématique. Mais néanmoins, c'est parce qu'il y a eu cette lente assimilation que l'enseignement scolaire a pu se développer d'une manière efficace. Or, aujourd'hui, ce qu'on pourrait appeler le tenon familial, pour employer une métaphore de menuiserie, est évidemment défaillant, plus gravement qu'il ne le fut jamais, même s'il est profondément injuste de stigmatiser la démission des parents qui subissent, eux aussi, une situation tout à fait inédite et difficile. Mais les pédagogues, ceux que j'ai cités tout à l'heure et bien d'autres, ont travaillé depuis toujours avec des enfants réellement ou symboliquement orphelins. Makarenko, Don Milani, Freinet, Don Bosco même en Italie, fondant les premiers patronages et introduisant le football dans les banlieues italiennes, travaillaient avec ceux qui précisément étaient dans cette déliaison transgénérationnelle que les sociologues repèrent aujourd'hui comme étant un phénomène de civilisation non plus marginal, mais massif. Et c'est parce que les pédagogues ont travaillé depuis longtemps avec des Allemands, avec des enfants, réellement ou symboliquement orphelins, qu'ils savent, ou au moins qu'ils tentent de savoir, comment s'y prendre avec eux. Il propose de, non pas supprimer ou éluder la transmission culturelle, mais au contraire de réaffirmer l'importance de cette transmission culturelle afin de réarticuler le sujet dans une histoire, de lui permettre de comprendre le présent à la lumière du passé pour inventer le futur. Loin d'avoir renoncé à la transmission, ce que j'appelle les pédagogues historiques, dont j'ai donné quelques noms, pour en donner bien d'autres, en sont des obsessionnels de la transmission. Au nom du principe d'éducabilité qu'ils proclament, ils veulent absolument transmettre. Et depuis tard, inventant les premiers jeux pédagogiques pour l'instruction de Victor de l'Aveyron, jusqu'aux praticiens de ce qu'on a appelé la pédagogie par objectif ou la pédagogie de la maîtrise, qui découpe les savoirs en de savantes taxonomies pour garantir leur appropriation, les pédagogues apparaissent comme des gens qui s'entêtent à enseigner et à faire apprendre, au point d'en devenir parfois même malades et de basculer au nom de l'importance de la transmission dans la violence et la manipulation. Précisément parce qu'ils ont été en contact avec les enfants les plus réfractaires, les pédagogues historiques ont vécu et décrit avant nous l'emballement de la volonté éducative. Les tentations de l'éducateur aux prises avec la résistance et le refus de ceux qui n'en veulent pas. Tentation de passer en force. Tentation de se satisfaire d'une soumission de façade. Tentation d'abandonner. Tentation d'exclure les réfractaires. Tentation de circonvenir leur liberté par d'habiles manipulations. En ce sens, ces pédagogues historiques témoignent en des écrits souvent très maladroits, le plus souvent des écrits hybrides entre narration d'expérience, prescription, rappel de savoirs scientifiques de leur époque mal stabilisés, mais ils témoignent dans ces écrits curieux de ce que vivent aujourd'hui bien des enseignants, cette difficulté de faire face à une situation où l'autre résiste à la volonté qu'on a de l'éduquer et de l'enseigner. Et à leur manière, ces pédagogues historiques expriment d'une manière ou d'une autre la même nécessaire et difficile découverte. Il faut impérativement transmettre, mais rien ne se transmet vraiment si ce n'est ressaisi par la liberté de celui qui apprend. Deuxième série de remarques rapidement. Transmettre est à la fois une nécessité, un impératif absolu, cela peut devenir aussi une impasse éducative. Le malheur, en effet, nous le savons bien, nous l'avons tous vécu, au moins en tant que parents, c'est quand une volonté s'affronte à une autre volonté. Tu vas travailler, je m'en porte garant, je ne lâcherai pas prise jusqu'à ce que tu aies compris. Je réexpliquerai jusqu'à ce que tu saches faire et que tu me le prouves. Ma détermination ne faillira pas et tu finiras bien par céder. Nous sommes là dans l'attitude de l'adulte qui croit pouvoir soigner l'anorexie par le gavage. Tu mangeras parce que je le veux, tu dormiras parce que je le décide, tu grandiras parce que j'en ai envie. Une volonté se cabre et renforce la détermination en face d'une autre volonté. La relation bascule alors dans une partie de bras de fer infernale à laquelle les enseignants ne sont pas préparés aujourd'hui et dont ils sortent bien souvent blessés. Car quand ils se laissent happer par la relation duelle, ce que j'appelle le conflit, l'affrontement, les maîtres doivent affronter des jeunes qui disposent d'armes terribles, les armes des exclus, ceux qui savent identifier les faiblesses de l'autre et faire saigner ses blessures. Et beaucoup d'enseignants, à ce titre, subissent une violence parce que, précisément, ils s'enferment dans cette relation-là. En réalité, la fonction de transmission essentielle, fondatrice, quand elle prétend s'effectuer par décret, en quelque sorte, comporte toujours une sorte de déni implicite de la place du sujet dans sa propre éducation. Car je ne peux jamais, en dépit de tous mes efforts, contraindre quiconque à apprendre. Il est sans doute possible de l'obliger à répéter une phrase, à exécuter un geste, à se soumettre à une règle, mais il n'y a rien là qui ressorte d'un apprentissage proprement humain. Nous restons ici dans l'ordre du dressage ou celui de la mécanique sociale. Bien des philosophes, d'ailleurs, en dépit d'une théorie de la connaissance solidement charpentée, révèlent l'existence d'une brèche irréductible dans tout apprentissage. Les philosophes sont très bavards en matière de théorie de la connaissance. Ils sont plus discrets, et à mon avis à juste titre, sur les théories de l'apprentissage. C'est que peut-être l'apprentissage se prête mal justement au traitement théorique. Du jeune Platon dans le Ménon, au paradoxe de la Cithare, dans l'éthique à Nicomaque d'Aristote, du De Magistro de Saint-Augustin, que je citais tout à l'heure, à Descartes, Pascal ou Rousseau, de Bergson en particulier, qui me semble-t-il a mis le doigt d'une manière très forte sur cette question, à Yankelevitch ou même dans certains textes à Foucault ou à Deleuze, on retrouve, je crois, le thème rémanent de l'apprentissage comme prise de risque irréductible aux conditions qui permettent son émergence. À leur manière, la plupart des pédagogues ne disent pas autre chose. Montessori, Freinet, Cousinet ne cessent de répéter que le maître doit accompagner, mais qu'il ne peut qu'accompagner. Il ne peut jamais, disent-ils, faire à la place de l'autre. Jusqu'aux pédagogues plus radicaux comme Rogers, chez qui le refus d'enseigner, qui a été longtemps identifié comme non directif, chez qui le refus d'enseigner n'est sans doute que l'expression conjoncturelle et très largement littéraire. Dans le contexte de la psychosociologie américaine, d'une certitude fondatrice qui est que l'on n'apprend bien que ce que l'on a appris soi-même. Et Joseph Jacotot, enfin, celui qui, en une provocation ultime, pousse jusqu'à l'extrême limite la ruse rousseauiste, prétend, vous le savez, que l'on ne peut enseigner que ce que l'on ignore. Et n'embauche, ne fait travailler des enseignants, qu'à condition d'être sûr qu'ils ne connaissent rien de ce qu'ils auront à enseigner. Quand on sait, dit-il, on explique et on empêche l'autre d'apprendre. Certes, Jacotot pousse la roublardise jusqu'à laisser croire que c'est l'ignorance qui opère, alors que c'est bien évidemment pas l'ignorance qui opère, y compris chez Jacotot, mais plutôt une sorte de rétractation, je dirais une retenue, qui au moment même où l'on transmet, laisse à l'autre la place suffisante pour qu'il apprenne. Rétractation et retenue dont on pourrait trouver des exemples presque à chaque page dans un certain nombre de dialogues de Platon. Apprendre n'est pas facile, en effet, je le disais tout à l'heure, à réduire aux catégories traditionnelles de la causalité. Car apprendre, c'est chercher à faire quelque chose que l'on ne sait pas faire en le faisant. Et il faut le faire alors qu'on ne sait pas faire pour apprendre à le faire. Il s'agit là d'une décision que personne ne peut prendre à la place de quiconque. Je ne sais pas parler, mais je ne peux apprendre à parler qu'en parlant. Je ne sais pas résoudre des équations, mais je dois apprendre à le faire en surmontant mes inquiétudes, comme quand je m'engage dans un livre, en ignorant toutes les difficultés que je vais y rencontrer. Et il en est ainsi de tout ce que je pourrais apprendre à faire, des savoir-faire les plus triviaux aux activités les plus essentielles de l'homme. On ne peut pas attendre de savoir nager pour aller à la piscine, pas plus qu'on attend de savoir faire l'amour pour faire l'amour. Nous sommes là en face d'une difficulté qui constitue le cœur même, me semble-t-il, de ce que les pédagogues ont rencontré dans leur travail. Je dois être fidèle à l'impératif devoir de transmettre, et en même temps, je dois permettre à l'autre de s'approprier lui-même, en une démarche dont il est l'acteur, les connaissances que je dois lui transmettre. Et ce qui me paraît caractériser la démarche de ces pédagogues historiques que j'ai cités, c'est qu'ils refusent de choisir entre ces deux affirmations. Ils acceptent tout à la fois que nous ne pouvons pas refuser de transmettre, mais que nous ne pouvons pas non plus imposer cette transmission. Et ils cherchent à trouver une ligne de passage, un chemin possible qui rende compatibles ces deux exigences contradictoires, transmettre parce que ne pas le faire serait une démission, et transmettre en laissant l'autre s'approprier ce que l'on transmet, parce que ne pas faire cela ce ne serait pas éduqué, mais manipulé ou dressé. Troisième série de remarques, à partir de ce paradoxe, il me semble que ce qui caractérise le travail pédagogique, c'est précisément d'inventer des moyens de surmonter cette contradiction. Contradiction qui est sans doute théoriquement insurmontable, mais pratiquement négociable. Éduquer serait ainsi, pour reprendre l'expression de celui que j'ai considéré tout à l'heure comme le fondateur de la modernité éducative, Pestalozzi, faire œuvre de médiation, inventer des moyens d'apprendre pour que chacun se fasse œuvre de lui-même. C'est devenu une banalité que d'attribuer aujourd'hui la crise de l'école à la perte des savoirs, du sens des savoirs, pardon. La tradition pédagogique avait pourtant souligné depuis longtemps que, selon la vieille formule de Dewey, toute leçon doit être une réponse. Mais la pédagogie a longtemps confondu le sens et l'utilité. S'efforçant de faire apparaître les savoirs comme nécessaires pour résoudre des problèmes et comprendre des situations concrètes, pardon, elle a privilégié les savoirs instrumentaux quand ce n'étaient pas les savoir-faire les plus empiriques. Au nom du tâtonnement expérimental prôné par Freinet, elle a parfois totémisé le bricolage, risquant d'écarter ainsi les explications théoriques plus complexes au nom de l'efficacité immédiate. Pourtant, dès 1960, Louis Legrand, qui a beaucoup été critiqué pour cela, avait plaidé dans un superbe livre initié par Paul Ricoeur pour une pédagogie de l'étonnement, insistant déjà sur la dimension symbolique des savoirs et refusant que la pédagogie les réduise de manière utilitariste. Cette perspective me paraît d'autant plus d'actualité que précisément le caractère utile des savoirs scolaires est récusé aujourd'hui par les élèves eux-mêmes, tant pour ce qui relève de leur propre réussite, l'école n'étant plus guère perçue comme un outil de mobilité sociale, que pour ce qui concerne leur capacité à les aider à comprendre le monde. Il est très difficile, et je l'observe au quotidien, de démontrer à des élèves l'utilité des savoirs scolaires. Ces savoirs sont pour beaucoup d'entre eux à l'avance disqualifiés, instrumentalisés, sont des savoirs purement scolaires, et on ne fait pas entendre raison, comme le dit Platon au tout début de la République, à celui qui n'est pas dans le registre de la raison. La difficulté aujourd'hui, c'est donc d'abord peut-être de réinstaller le savoir dans l'ordre du désirable et du symbolique, de lui redonner une place dans l'espace symbolique des élèves. Or, je suis convaincu que l'école a abandonné trop vite le symbolique au marché. Walt Disney, les mangas, les thrillers américains et les films d'horreur font fortune en exploitant l'espace laissé vide par une école un peu frileuse dans ce domaine. Ainsi, après avoir dépensé leur argent de poche dans des jeux vidéo ou des superproductions cinématographiques, les élèves retournent en classe parce que c'est obligatoire et pour obtenir, si possible, quelques notes leur permettant, comme ils disent, de limiter les dégâts. Plus rien de ce qui est essentiel à l'homme ne leur apparaît vibrer dans les savoirs scolaires, tout entier récupéré par ce que Paolo Freire appelait la pédagogie bancaire. C'est sur ce terrain-là, me semble-t-il, qu'il faut travailler si nous ne voulons pas laisser l'école se vider de sa substance et de son sens. J'ai la conviction qu'elle ne trouvera le chemin du désir d'apprendre que si elle permet la découverte d'une culture qui reconstitue la chaîne généalogique et restaure la filiation de l'humain dans l'enseignement des savoirs eux-mêmes. Il faut, me semble-t-il, s'attacher pour cela à ce qui, dans les cultures diverses, résonne au-delà de chacun, touche aux invariants anthropologiques et relie un être à ses semblables. Il n'y a pas, à mon sens, de renonciation dans cette démarche, bien au contraire, mais une exigence forte qui articule l'intime à l'universel. Et c'est bien là l'enjeu de l'éducation. On n'aide pas un homme à se construire en l'obligeant à renoncer à son histoire, mais on ne l'aide pas non plus à se construire en le privant de ce qui peut donner forme à son histoire, c'est-à-dire en l'inscrivant dans l'histoire des hommes, dans une filiation où trouvent place les grandes œuvres, les questions fondamentales de la science, les créations les plus marquantes de l'histoire humaine, Lascaux ou le calcul infinitésimal, Gandhi ou l'arbre à palabre, les cartes au trésor et la déclaration des droits de l'homme, Homère ou Einstein, Hérodote ou Mozart. C'est pourquoi il faut, me semble-t-il, comme nous y invite le psychologue Jérôme Brunner dans son dernier ouvrage, retrouver ou inventer avec les élèves l'art d'exploiter les questions et de les garder vivantes, les questions premières, les questions fondamentales. Car ainsi, non seulement l'on restaure la liaison entre les générations, mais l'on apprend également à se relier à ceux qui, aujourd'hui, posent les mêmes questions, même s'ils n'y donnent pas les mêmes réponses. Entre le relativisme différentialiste d'une part, qui assigne les individus à résidence sociale et culturelle, ce que l'on appelle parfois dans le langage commun la pédagogie couscous, et l'universalisme dogmatique d'autre part, qui poursuit la colonisation de l'intérieur, il y a place, je crois, pour une pédagogie où les élèves se reconnaissent ensemble, fils et filles des mêmes questions, et capables d'assumer sans violence la différence de leurs réponses. Je dis sans violence, là est justement le problème pour un certain nombre d'enseignants, car nous assistons aujourd'hui à la montée en puissance d'un phénomène difficile. Les élèves, au quotidien, arrivent de plus en plus sous pression, entre guillemets, dans les classes. Les difficultés sociales, économiques, affectives qu'ils vivent par ailleurs, les rendent pour beaucoup très peu disponibles à des savoirs scolaires qui s'exposent dans une sorte de transparence rationnelle. Tout leur est à fleur de peau pour beaucoup de ces élèves. Ce sont des écorchés vifs que la moindre réflexion insignifiante pour l'enseignant qui la profère va faire sortir de leur gond. Que la maîtresse les fixe trop longuement du regard et ils sont persuadés qu'on les espionne, qu'on ne les regarde pas assez, ils sont persuadés qu'on les ignore et qu'on les méprise. Les rapports au sein de la classe n'ont jamais été aussi chargés affectivement, sociologiquement, et dans bien des cas, la classe n'a jamais été aussi vide d'objets capables de venir lester des relations qui s'exaspèrent. C'est pourquoi les pratiques pédagogiques qui s'inspirent de ce qu'on a appelé les méthodes actives, que ce soit la pédagogie freinée ou ce que Georges Charpak a lancé récemment sous le nom de « main à la patte », me paraissent intéressantes. Ce sont des méthodes actives, mais elles ne sont en rien non directives, bien au contraire. Elles rendent possible l'accès à la loi, aux règles de la vie collective et aux savoirs fondamentaux qui deviennent ici nécessaires pour mener à bien la tâche commune. Quand des enfants sont confrontés à une expérience scientifique, quand ils disposent d'un protocole de travail, et peuvent observer eux-mêmes ce qui marche et ce qui ne marche pas, ils sont bien obligés de sortir du simple rapport de force. Pour autant que le maître soit attentif à ce qu'aucun membre du groupe ne dissimule des résultats ou n'impose le silence à quiconque, les élèves, même très jeunes, peuvent accéder à une délibération où la vérité se construit progressivement, à une extériorité par rapport aux tensions affectives et aux problèmes sociologiques qui peuvent exister par ailleurs. De la même façon, le travail sur les textes littéraires, par exemple, représente une occasion extrêmement précieuse de se trouver confronté à un objet qui existe et résiste, qui dit ce qu'il dit, auquel on ne peut pas faire dire n'importe quoi, mais tout en nous donnant le droit de l'investir dans des interstices et d'oser des interprétations dans les espaces ouverts entre les mots et les phrases. On pourrait dire la même chose d'une carte de géographie, d'un graphique économique ou d'une page en langue étrangère. Ce sont là des objets culturels sur lesquels peut s'éprouver un rapport constitutif de la construction de l'intelligence entre intériorité et extériorité. La réalité extérieure est dure, elle nous résiste, et nous ne pouvons jamais lui imposer complètement notre loi, mais elle nous permet néanmoins de nous mettre en jeu, de dire « je comprends, je sais, j'hésite, je veux y voir clair ». Et c'est parce que l'école fait exister des objets culturels qu'elle permet l'existence de sujets. Il s'agit donc à l'école, me semble-t-il, c'est ce que nous disent les pédagogues, de sortir du face-à-face entre des opinions qui cherchent à s'imposer par la force, la tradition ou l'autorité, pour arriver à faire arbitrer ces opinions par des objets tiers, par des tiers médiateurs. C'était déjà le sens que Jules Ferry et Ferdinand Buisson donnaient à la leçon de choses. Dans le dictionnaire de Ferdinand Buisson, il explique que quand le maître apporte une balance ou un faisan empaillé, c'est simplement parce qu'il veut dire aux élèves « ne me croyez pas sur parole, vérifiez ce que je dis à ce que je vous apporte ». Car l'école est par essence le lieu où l'on apprend que la vérité d'une parole n'est pas relative au statut de celui qui l'énonce. Et à ce titre, elle est le lieu d'apprentissage de la liberté. La vérité n'est pas relative au statut de celui qui l'énonce. La vérité se découvre et se construit dans une démarche exigeante de confrontation, dans un travail où l'on se défait progressivement de sa pathologie, comme disait Kant, psychologique et sociologique, de ses velléités hégémoniques, où l'on accepte de se remettre en question, d'avoir tort. Gadamer dit « Le miracle à l'école, c'est quand l'élève reconnaît qu'il a tort. » De reconsidérer son point de vue pour accéder à un point de vue plus élaboré. L'école est bien un lieu où il faut se dégager de la tentation du « c'est à prendre ou à laisser », parce que c'est un lieu où précisément il y a à discuter et à examiner avant d'adhérer. Ainsi, si l'école a pour mission de socialiser les élèves, c'est bien, à mon sens, et les pédagogues l'ont toujours dit, à travers la mise en place progressive de situations d'apprentissage où la confrontation des personnes peut être régulée par l'exigence de vérité. C'est dans ce cadre que doit se faire l'apprentissage fondamental du sursis, sursis à l'immédiateté de l'impulsion, sursis à l'expression non régulée des affects, sursis aux préjugés, sursis aux règles du clan ou de la communauté. Il faut d'abord, dit Marcel Mauss à la fin de l'essai sur le don, en reprenant la métaphore des chevaliers de la table ronde, il faut d'abord poser les lances. Il faut d'abord poser les lances. C'est peut-être là un des problèmes essentiels que rencontrent des enseignants au quotidien, faire en sorte que l'enfant, en rentrant dans la classe, pose les lances. Il y faut pour cela des dispositifs pédagogiques qui rendent possible la construction d'un espace scolaire permettant le travail intellectuel et formant au débat. Quelques moyens, mais je vais aller très vite car le temps court relativement vite, quelques moyens qui me paraissent des invariants de la tradition pédagogique. J'en ai identifié 7 et je vais simplement me contenter de les énoncer. Que nous apprennent les pédagogues dont j'ai parlé. D'abord, refuser systématiquement la relation duelle, mortifère. Nous ne sommes pas en classe dans une situation de conflit duel. L'objet de la transaction pédagogique n'est pas le rapport que le maître entretient avec l'élève. L'objet appartient au monde et il comporte ses exigences propres qui échappent au pouvoir, aux caprices et aux affinités électives de ceux qui sont là. L'objet dont on parle n'est pas la relation entre les personnes qui sont présentes. Deuxième point fondamental, me semble-t-il, distinguer la tâche et l'objectif. La tâche, c'est ce que l'on fait, c'est la copie, le document élaboré. L'objectif, c'est le progrès effectué par chacun, la façon dont il a avancé, dont il a grandi. Le rapport entre la tâche et l'objectif différencie d'ailleurs la situation de formation de la situation de production. En formation, c'est toujours l'objectif qui est premier, ce qui s'acquiert. En production, c'est évidemment la tâche qui structure les rapports entre les personnes. Troisième axe, organiser les échanges de telle manière que cette organisation serve la progression de chacun et non pas autorise l'oppression de quelques-uns. J'ai dit tout à l'heure, apprendre, c'est prendre le risque de faire ce que l'on ne sait pas faire. Pour cela, il est bien évident qu'il faut un espace où ce risque est minime. Il faut par exemple garantir que les autres élèves n'utiliseront ni la moquerie ni l'humiliation quand quelqu'un tentera quelque chose qu'il ne sait pas faire et qu'il ne réussira pas du premier coup. Il faut un espace qui évite de décourager ce que Yankelevitch appelle le courage des commencements, sans lequel personne ne peut tenter de faire ce qu'il ne sait pas faire. Quatrième élément, différencier les temps et les lieux. Vivre ensemble à l'école, c'est d'apprendre que tout n'est pas possible tout le temps et partout, qu'il y a des moments pour travailler, des moments pour discuter, des espaces d'initiative, mais aussi des regroupements pour entendre des consignes collectives. C'est savoir qu'il y a un temps pour tâtonner où l'on n'est pas évalué et un temps où l'on est évalué et où l'on ne tâtonne plus. Vivre ensemble et apprendre ensemble, c'est respecter le quant à soi et savoir en même temps introduire des structures d'échange. Dans la même perspective, cinquième point, ritualiser le fonctionnement, car je suis convaincu que nul n'accède à l'école à la véritable parole sans rite. On a, sans doute avec raison, abandonné les anciens rituels scolaires, parce qu'ils étaient désuets ou refusés par les élèves et les parents, voire les enseignants. Il me semble précisément que l'absence de rituels scolaires nouveaux pèse considérablement sur les enseignants et sur l'école et contribue à rendre des situations beaucoup plus difficiles. Sixième point, multiplier les ressources, c'est le corollaire de l'obstination dans la volonté d'atteindre les mêmes objectifs. Multiplier les ressources, c'est offrir autant de prises possibles pour susciter et appuyer la détermination à apprendre. Et enfin, offrir des recours, car personne ne parvient d'emblée aux objectifs qu'on lui fixe. Sur le chemin, les difficultés sont nombreuses, les erreurs inévitables. Ces erreurs ne sont pas des scories dont il faudrait se débarrasser. Difficultés et erreurs, nous disent les pédagogues, sont au contraire des occasions d'analyse, des moyens de comprendre, des opportunités pour offrir d'autres explications, proposer d'autres entrées. En conclusion, je rappellerai très brièvement Pestalozzi, dont j'ai dit tout à l'heure qu'il inaugurait la modernité éducative, et peut-être simplement pour évoquer une image qui n'est pas celle de la classe traditionnelle, je voudrais commenter brièvement, je ne sais pas si on peut le voir d'une manière plus nette, mais peut-être cela suffit-il, commenter brièvement cette classe. Nous sommes en 1798. L'armée du directoire a ravagé le canton de Nidoil et, comme toujours, a laissé sur place des orphelins, des femmes violées et très peu de ressources. Le directoire et la nouvelle République helvétique envoient Pestalozzi récupérer ces orphelins et tenter de les éduquer. Ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile car Pestalozzi représente, en plus il est protestant dans un canton catholique, il représente cette révolution française qui précisément vient de passer en force sur ce territoire en le laissant complètement dévasté. Et pourtant, là où d'autres auraient pudiquement recouvert la misère du monde d'un vernis scolaire, Pestalozzi va ouvrir un institut capable d'accueillir tout à la fois les enfants tels qu'ils sont et de répondre à leurs besoins, et aussi, surtout, de leur proposer d'apprendre. Apprendre, finit-il par dire, dans la fameuse lettre de Stans, que je considère pour moi comme un texte fondateur, était pour eux une chose entièrement nouvelle. Et dès que certains s'aperçurent qu'ils arrivaient à quelque chose, leur zèle devint alors infatigable. Et regardons cette classe de Pestalozzi telle qu'elle apparaît sur une gravure d'époque. Le maître Pestalozzi ne parle pas. Vous voyez qu'il monte à trois jeunes filles une planche d'architecture. Une planche d'architecture, on voit mal ici, mais il s'agit bien d'architecture. Et l'échange qui est là subvertit en 1798 toutes les formes de préjugés sociaux de l'époque. Ce sont des filles du peuple, debout dans une classe. Des filles, hein ? Qui travaille sur des questions traditionnellement dévolues aux hommes et aux nantis, l'architecture, et qui plus est, elles ne se contentent pas de recevoir un enseignement, mais elles interrogent et elles discutent. On voit même, si vous regardez en détail, que c'est la plus jeune qui interpelle le maître. Le maître, tout un enseignant, on voit, tient la main d'un enfant malade. Les enfants étaient très malades à Stans. Un autre élève le regarde attentivement et semble le protéger. Celui qui ne peut pas apprendre parce qu'il est malade n'est pas exclu. Il reste présent, objet des soins d'une collectivité qu'il aspire à rejoindre. Vous voyez au pied de Pestalozzi une jeune fille qui apprend à lire à deux autres enfants. Le maître a délégué son pouvoir à une de ses élèves. De toute évidence, cette dernière accomplit sa tâche avec une ardeur qui force l'attention des plus jeunes. À côté d'elle, au-dessus de la fenêtre, un enfant dort. Il ne trouble pas la classe, semble qu'il ne sera ni puni ni sanctionné. Peut-être son heure d'étudier viendra, pour autant que le maître soit là à son réveil. Un autre travaille seul, debout. Il écrit, et la détermination sereine qu'on peut lire sur son visage laisse supposer qu'il continuera bien, bien après la classe, à travailler. De l'autre côté, on voit un jeune garçon qui lit à ses camarades un ouvrage à haute voix. Ça n'a pas l'air de très bien marcher, les élèves sont peu attentifs. Il y en a un qui s'étire pour marquer son ennui, tandis qu'un autre se laisse attirer par un garçon au regard sceptique vers des activités sans doute plus attractives. Apprendre n'est pas facile, et les tentations de s'y soustraire sont nombreuses. Pestalozzi ne semble pas choqué. À quoi bon assujettir les corps quand de toute façon les esprits vagabonderont ? Il vaut mieux garder son énergie pour saisir ou créer des occasions plus favorables. Sur le seuil, une mère attend, dehors, on se bat encore, mais peut-être le jeu de règles a-t-il déjà supplanté la violence brute. J'ai terminé, car la classe de Pestalozzi est un mythe, bien sûr. C'est un mythe absolu, mais on y trouve pourtant quelques éléments qui nous permettent de comprendre ce que pourrait être une situation d'enseignement, de passage de culture, un maître qui garantit la loi et préserve l'intégrité des personnes, qui marque des limites, qui permettent de ne pas se dissoudre dans un espace sans frontières, quelqu'un qui aide chacun à reconnaître dans la culture les échos et les réponses de l'humanité à ses propres interrogations. C'est la raison pour laquelle je suis relativement fier d'appartenir à une république qui, par un décret de l'Assemblée nationale du 26 août 1792, considérant que les hommes qui, par leurs écrits et par leur courage, ont servi la cause de la liberté, préparé l'affranchissement des peuples, ne peuvent être regardés comme étrangers par une nation que ses lumières et son courage ont rendue libre, déclare, dit l'Assemblée nationale, conférer le titre de citoyen d'honneur français à Heinrich Pestalozzi. Qu'un pédagogue ait été fait ainsi citoyen d'honneur de la République française devrait rassurer tous ceux qui s'inquiètent des menaces que la pédagogie ferait peser sur la République. Merci de votre attention.
Bonjour Monsieur Philippe Mérieux.
Il est ici.
Je suis là.
Voyez là.
Vous me disiez alors.
Si j'avais pas eu l'autre professeur à Grandchamp, j'aurais eu une meilleure note de philo. J'en suis sûr maintenant que je vous ai écouté. Je voulais moi vous poser une question sur la possibilité d'améliorer la qualité des classes en réduisant les dites classes. Est-ce que vous pensez pas qu'on pourrait faire mieux passer le message pédagogique dans les petites classes que dans les grandes classes où on déborde, où finalement il y a des excès? Merci, monsieur.
Je réponds tout de
suite. Oui, répondez.
Très brièvement, les recherches dont nous disposons en matière de sociologie et de l'éducation, c'est extrêmement difficile de dire cela parce que ça va à contre-courant de ce qui est traditionnellement expliqué, semble montrer qu'il n'y a pas de corrélation directe entre l'amélioration des résultats des élèves et la diminution des effectifs. Certains pédagogues historiques, que je n'ai pas cités, Comenius, proposaient par exemple de diminuer le nombre des enseignants et ne garder que les meilleurs en leur mettant beaucoup d'élèves et en disant que cela serait beaucoup plus efficace que d'avoir beaucoup d'enseignants qui enseignent à très peu d'élèves. C'est de la provocation pure et simple, et bien évidemment, personne ne pourrait tenir ce langage aujourd'hui. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que la question des effectifs, telle que nous la traitons, telle que les sociologues de l'éducation spécialistes de ces questions-là traitent, doit être toujours apportée au type d'activité que l'on propose. Il est évident qu'il n'y a aucun obstacle, on le voit bien ce matin, pour une activité expositive d'avoir un grand effectif. On sait même qu'en termes de psychologie cognitive, ce qu'on appelle le facteur d'ancrage, fait que plus le groupe est nombreux, plus ce qui est dit est retenu. En revanche, quand il s'agit d'assurer un suivi individualisé d'élèves, on a probablement intérêt à avoir des tout petits groupes. Si l'on veut apprendre à des élèves à retravailler le brouillon d'une dissertation, on a probablement intérêt à avoir des groupes de 2, 3 ou 4. Si l'on veut faire de la conversation anglaise, on a probablement intérêt à avoir des groupes de 7, 8 ou 10. Autrement dit, ce qui me paraît... J'ai peur d'enfoncer une porte ouverte en disant cela, mais ce qui me paraît aujourd'hui problématique, c'est le fait d'imposer un référent unique, qui est la classe, avec un nombre identique d'élèves, pour une multitude d'activités différentes qui requerraient chacune des effectifs différents, ou qui seraient plus efficaces chacune, si on avait pour chacune des effectifs différents. Voilà ce que, me semble-t-il, les travaux sociologiques nous montrent aujourd'hui.
En haut,
tout en haut.
Monsieur,
ouais, tout en haut. Allez-y, allez-y, ça marche.
Bonsoir, monsieur, mes compliments pour votre excellent discours. Excusez-moi mon français, je suis brésilien. Je voulais vous poser une question, mais avant, si vous me permettez, une petite apologie. Je suis venu à plus de 100 conférences à l'Université de tous les savoirs, avec un immense plaisir. Je n'ai jamais posé une question. C'est la première. Mais avant la question, si vous me permettez, une petite apologie. Je suis venu en France à la recherche de choses extraordinaires. Je suis un peu pareil à Alice. J'aime les choses extraordinaires. J'ai trouvé vraiment le Louvre extraordinaire, le musée d'Orsay extraordinaire, le musée Georges Pompidou extraordinaire, une encyclopédie de l'histoire de l'art en 3 volumes dans une ville extraordinaire. Mais la chose la plus extraordinaire que j'ai trouvée à Paris, ça a été l'Université de tous les savoirs. À mon avis, l'école idéale, et je voulais vous suggérer que l'Université de tous les savoirs, pour la gloire de la France, une de plus, soit éternisée.
Bon, merci pour tout ça, mais vous pouvez... On va vous décevoir un peu.
C'est mon nouveau espoir d'améliorer le futur de l'humanité. Un endroit où on peut apprendre des choses très importantes, gratuitement, en toute liberté, sans contrôle de présence, sans diplôme, mais avec un débat qui, pour moi, c'est le mieux à la fin. Je voulais vous donner comme suggestion que le mois de décembre soit fait des conférences avec les spectateurs qui sont venus le plus souvent, qui sont déjà des maîtres. Et je voulais vous demander de ne pas envoyer l'Université de tous les savoirs pour les autres villes. Elle doit rester à Paris. Elle est née à Paris. C'est à Paris que Dante Alighieri est venu étudier.
D'accord.
Et nous aussi. Nous...
Est-ce que vous pouvez quand même venir à votre question, s'il vous plaît?
La question, messieurs oui, les conférenciers, vous avez cité beaucoup de philosophes que je connais, d'autres que je ne connais pas, des enseignants très importants, mais à mon avis, vous avez oublié le plus important, parce que je crois que le grand problème de l'éducation, ce n'est pas entre le professeur et l'élève, c'est entre le professeur et le professeur. Et la personne qui a donné une excellente leçon à propos de ça, à mon avis, c'est Montaigne, dans le chapitre de l'éducation des enfants. C'est là qu'il enseigne comment l'enseignant doit enseigner. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup.
Merci.
Je ne vais évidemment pouvoir que dire du bien de Montaigne. Ce que je voulais dire simplement, c'est que ce que j'ai essayé, peut-être maladroitement, mais je crois que c'est important de réhabiliter ici, c'est une catégorie de penseurs que j'ai appelés les pédagogues, dont Montaigne, à mon sens, ne fait pas partie, parce que Montaigne reste un théoricien. Les gens dont j'ai parlé sont des gens qui ont tous été à l'initiative d'activités pédagogiques, qui se sont tous coltinés, excusez-moi ce terme, avec des enfants difficiles, avec des problèmes sociaux, qui se sont tous affrontés à des réalités auxquelles ils ont dû faire face. Et ils ont donc été à la fois, pour une part, des théoriciens, des praticiens. Ils se sont trouvés à la charnière de la théorie et de la pratique. Et à ce titre, ils expriment, encore une fois, dans un discours qui est, à mon sens, souvent maladroit et marqué par leur époque, ces difficultés rencontrées dans l'action. Alors Montaigne, comme Rousseau, sont des philosophes et des hommes de lettres tout à fait extraordinaires et d'autres penseurs de l'éducation aussi. Ce que j'étudie plus particulièrement sont ceux qui parlent de ce qu'ils font et j'essaye de comprendre comment, en parlant de ce qu'ils font, ils nous aident à comprendre ce que nous pouvons faire. Voilà, c'est une catégorie particulière qui ne dévalorise nullement les autres. Ces hommes comme Freinet ou Korczak ne sont pas des philosophes. Ils écrivent le plus souvent dans une langue extrêmement naïve. Leurs discours sont des appels parfois insensés. Freinet écrit dans, je crois, l'édit de Mathieu, qu'il faudrait remplacer la devise « liberté, égalité, fraternité » au-dessus des écoles par la devise que Dante mettait aux portes de l'enfer, « au toit qui entre ici, abandonne tout espoir ». C'est évidemment excessif. Ça n'est pas un propos scientifique. Je veux dire, il faut le prendre comme un propos presque épique. Le discours pédagogique de Korczak ou de Freinet ou de Montessori, ce n'est pas du discours scientifique. C'est un discours hybride qui mêle des niveaux de parole extrêmement différents. J'ai essayé de les analyser dans certains travaux. Et qui a pour objectif de, à travers cette construction de niveaux de parole différents, d'approcher au plus près la réalité d'une sorte de résistance dans la relation entre l'enseignant, l'enseigné, entre celui qui est de la génération d'avant et celui qui accueille, celui qui vient dans le monde. Alors voilà, je plaide un peu pour la reconnaissance de ce patrimoine, estimant qu'il est un tout petit peu négligé, y compris dans la formation des enseignants. Je crois par exemple qu'aujourd'hui, cette formation des enseignants insiste légitimement sur la philosophie de l'éducation et les grands philosophes de l'éducation, et je crois que c'est très bien, qu'elle travaille aussi sur la didactique, et que c'est sans doute utile, mais qu'entre les deux, elle néglige ce discours pédagogique. Envoyer aujourd'hui des jeunes enseignants dans des banlieues un petit peu difficiles sans qu'ils aient, par exemple, lu « Graines de crapule » de Deligny, ça me paraît dommage, parce qu'il y a, dans cette forme littéraire d'expression qu'est le discours pédagogique de Deligny, des clés d'intelligibilité de la difficulté qu'il y a à enseigner aux crapules, tout à fait extraordinaire, et que les jeunes enseignants pourraient s'approprier. Voilà, mais Montaigne, pour moi, à ce titre, est un très grand philosophe de l'éducation, c'est un très grand homme de lettres, comme évidemment Rousseau et comme bien d'autres.
Madame, monsieur, pardon, je crois.
Bonjour.
Attendez, c'est ici.
Oui. J'aimerais vous faire rebondir sur la question des foulards islamiques et l'attitude provocante des élèves qui portaient le foulard islamique, et bien entendu l'attitude, la réponse flagrant de l'école qui a consisté essentiellement à exclure ces contrevenants par rapport à notre histoire de l'école laïque. Merci.
C'est une question très difficile et sur laquelle il me semble extrêmement problématique de légiférer in abstracto. Il y a des situations où le foulard islamique était de toute évidence imposé par des familles, voire, disons le mot, des gangs qui avaient pour objectif de déstabiliser une institution scolaire. Il y a des cas où le foulard islamique était porté par des jeunes filles qui, au demeurant, étaient de bonnes élèves ou d'assez bonnes élèves et qui marquaient par là une appartenance ou en tout cas une référence religieuse qui leur tenait à cœur. Ce que j'ai essayé d'exprimer, c'est que dans la diversité des cultures, par rapport à cette diversité des cultures qui envahit l'école aujourd'hui, on peut avoir une attitude que j'ai appelée d'universalisme dogmatique, qui consiste à, j'ai employé l'expression d'une manière volontairement provocatrice, à continuer la colonisation de l'intérieur, comme on l'a fait dans les djebels comme dans les campagnes pendant le 19e et le début du 20e siècle. Où on peut avoir une autre attitude qui consiste à chercher à comprendre, mais pas à comprendre d'une manière, facile et qui excuserait tout, mais à comprendre la signification que peut avoir un tel geste pour des élèves et à creuser cette signification jusqu'à ce que puisse apparaître dans la discussion et le rapport avec eux, les problèmes que cela pose pour le fonctionnement quotidien de l'école, par exemple. J'ai participé dans l'Ain avec des chefs d'établissement à une réflexion avec des enseignants et des élèves qui étaient justement dans cette situation et où l'échange approfondit Et la médiation culturelle, par exemple le passage par l'étude de textes traditionnels de l'islam ou de la culture islamique, a été utile pour faire entendre ce que signifiait ce foulard et pour permettre que chacun fasse un pas vers un vivre ensemble acceptable. C'est très difficile comme question. Encore une fois, elle est très difficile parce que chaque situation est extrêmement différente. L'hypothèse que je fais, d'une manière plus générale, et que j'ai tenté de mettre en œuvre dans une banlieue lyonnaise en tant qu'enseignant de lycée professionnel, c'est que l'on peut, à distance entre le relativisme absolu et le dogmatisme, trouver une manière de faire se rejoindre les cultures. J'ai travaillé, par exemple, pendant une année complète avec les élèves de tout un lycée professionnel et les professeurs de français sur le rôle du masque, en étudiant ce rôle à la fois dans la Commedia dell'arte, à la fois dans les Mille et une nuits, à la fois dans les cultures africaines. Et l'étude du masque dans ces trois cultures, telle que nous l'avons faite, a permis de révéler que chacune de ces cultures utilisait le masque d'une façon particulière, mais qu'il y avait aussi des invariants fondamentaux, que le masque posait des questions qui étaient les questions de l'être et de l'apparaître, pourquoi à certains moments le masque n'est plus vrai que ce qu'il cache, etc. Et toutes ces questions-là, finalement, pouvaient être posées à travers la convergence ou les différences de ces approches culturelles. On ne reniait en rien à cela, dans une expérience comme celle-là, les impératifs de la transmission, puisqu'on travaillait sur des textes difficiles, on a même conclu l'année sur en amenant les élèves voir une représentation des Noces de Figaro, où vous savez que tout le dernier acte se joue précisément sur un échange permanent de masques, et où c'est le masque qui se renverse en permanence, puisque c'est parce qu'on est masqué qu'on est plus vrai que quand on n'était pas masqué, etc. Et puis ça, bon. Et il n'y a pas de renoncement culturel à cela, mais le travail qui avait été fait antérieurement sur le masque dans les Mille et une nuits, sur le masque africain et sur le masque dans la Commedia dell'arte, avait permis de montrer ce que j'ai tenté de dire d'une façon très rapide tout à l'heure, que s'il peut y avoir des réponses différentes, on peut se reconnaître ensemble, fils et filles, des mêmes questions, et qu'on peut identifier des questions communes même en reconnaissant qu'on n'a pas à imposer telle ou telle réponse comme étant hégémonique par rapport aux autres. Je crois que c'est cette démarche-là qui est porteuse de véritable universalité, d'une universalité qui est modeste, qui se travaille et qui se construit, qui ne s'impose pas au forceps, pour reprendre une expression que j'ai utilisée tout à l'heure.
Monsieur tout en haut.
De quel modèle êtes-vous partisan et pour quelles raisons? Entre une école où les classes sont formées d'élèves, je dirais homogènes dans le sens d'aptitudes très voisines, et au contraire une école où on mélange les aptitudes très différentes, donc en d'autres termes les bons élèves et les mauvais. Très bonne. De quel modèle êtes-vous partisan et pour quelles raisons?
Très bonne question. Oui.
Je me limiterai, comme je l'ai fait tout au long de cet exposé, à la période de la scolarité obligatoire. Je crois que la scolarité obligatoire entretient un rapport organique avec l'État très différent de ce qui se passe après la scolarité obligatoire. Alors, je ne suis pas certain d'avoir légitimité à trancher. Je crois que la question que vous posez est une question qui devrait ressortir, je l'ai évoqué d'une manière extrêmement brève, de la représentation nationale. Elle me paraît au moins aussi importante que la question de la chasse aux oiseaux migrateurs qui a occupé pendant 37h30 l'Assemblée nationale l'an dernier. Et non, je ne dis pas ça pour polémiquer, je dis cela simplement pour dire qu'il y a vraiment, à travers la question que vous posez, un vrai débat de société. Et sur ce débat de société, mon sentiment aujourd'hui, mais je ne peux donner qu'un sentiment, c'est que nous vivons une certaine hypocrisie. Officiellement, la loi pour l'école primaire et le collège, impose la classe hétérogène. En réalité, l'immense majorité des parents qui vont voir rentrer leur enfant en sixième dans les jours qui viennent ne savent pas si la sixième dans laquelle ils vont mettre leur fils ou leur fille va être une classe constituée sur des critères homogènes ou hétérogènes. Certains le savent parce que ce sont des enseignants. ou qu'ils ont des amis enseignants. Mais la plupart ne savent pas, et les chefs d'établissement eux-mêmes ne savent pas. Et le problème est très compliqué. Je racontais récemment une anecdote. Je discutais avec un principal d'un collège de Seine-Saint-Denis qui me disait « Je vais recevoir à la rentrée 160 élèves de 6e. Si je regarde les carnets, je sais qu'il y en a à peu près 30 ou 40 que j'ai des chances de pouvoir faire passer en seconde. Alors, qu'est-ce que je fais ? Ou bien je les réunis ensemble, je leur mets de bons enseignants, j'obtiens une subvention du Conseil général pour faire un voyage en Angleterre avec cette classe. Je leur fais faire 3 heures d'informatique par semaine et je les place au fond du couloir où il n'y a pas trop de bruit. Et j'ai des chances de les garder jusqu'en 3e. Mais j'enfreins la loi. Ou bien je fais ce que me dit la loi, c'est-à-dire que je les place d'une manière très dispersée dans toutes les classes et je crée des classes hétérogènes. Mais compte tenu de là où je suis placé par rapport au RER, je sais qu'il manque des élèves dans un certain nombre de collèges de Paris qui sont en train de se vider et qu'à la fin de 5e, je perdrai la quasi-totalité de mes 30 élèves qui vont rejoindre le centre de Paris plus facilement que le collège voisin. Alors qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je crée le ghetto en interne ? Ou est-ce que je les disperse en respectant la loi et je suis à ce moment-là ghettoisé en externe ? Puisque je n'aurai même plus ces élèves-là pour créer. Moi, je n'ai pas de réponse à donner à ce chef d'établissement. Je dis simplement, la réponse, elle est politique. La question de la mixité sociale à l'école, elle est politique. Elle ressort de la représentation nationale et de choix qui doivent être faits clairement par la représentation nationale. Si vous me demandez ma préférence personnelle, elle va évidemment du côté de ce que je crois être la tradition française, c'est-à-dire l'hétérogénéité et la rencontre entre des personnes de niveaux relativement différents. J'ai milité pour ma part, par exemple, longtemps pour le maintien des classes rurales uniques, dont je pense qu'elles fonctionnaient très bien en dépit de l'hétérogénéité des élèves. Vous me direz, c'était une hétérogénéité de niveau, ce n'était pas une hétérogénéité culturelle, ce qui est très différent de ce que vivent actuellement un certain nombre de zones urbaines. Mais néanmoins, il y avait de l'hétérogénéité et on l'a gérée. Moi, j'ai tendance à penser que le modèle français devrait garder en ligne de mire l'idée que l'école est un creuset social où peuvent se rencontrer ou doivent se rencontrer jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire des élèves qui ont des sensibilités culturelles, personnelles différentes, quitte à ce qu'après la scolarité obligatoire, la filiarisation s'organise d'une manière plus claire qu'elle ne l'est maintenant. Mais je suis très, très inquiet de la situation actuelle parce qu'elle me paraît d'une certaine manière la pire des situations, parce qu'elle est opaque. C'est même pas le marché comme en Allemagne. En Allemagne, c'est le marché, puisqu'il y a des examens d'entrée, donc vous passez votre examen. En France, c'est le marché noir. Il me semble que c'est une situation qui ne pourra pas continuer à se développer actuellement, compte tenu de l'attitude des parents dans leur ensemble, sans qu'il y ait une régulation minimale. Et dans ce domaine-là, je crois à la nécessité d'une régulation forte de l'État, et je crois en tout cas à l'impératif devoir de la nation de se saisir de la question que vous posez et de la traiter dans toute sa complexité, de manière finalement à esquisser à travers cela, au-delà d'un projet scolaire, un projet de société. Il faut se saisir de cette question, c'est une question fondamentale et centrale. C'est une question citoyenne, c'est plus qu'une question scolaire, c'est une question politique, fondamentalement politique, à mon sens.
Madame, ici à droite.
À la fin de votre intervention, vous avez évoqué des moyens. Le cinquième moyen est la ritualisation du fonctionnement, et je ne vois pas bien ce que recouvre ce terme. Est-ce que vous pouvez le développer et donner quelques exemples, s'il vous plaît ?
Tout à fait. Je vais vous donner un exemple très simple qui vous permettra de voir très vite ce dont il s'agit. Quand j'étais à l'école, pour ma part, quand j'entrais en classe, je restais quelques instants, quelques secondes debout à côté de mon pupitre avant que le maître me dise de m'asseoir. Ça avait une fonction. Cette fonction, c'était de marquer une césure entre le temps de la récréation, qui était le temps du jeu, et le temps du travail intellectuel, qui est celui de la concentration sur un objet particulier. Aujourd'hui, dans énormément de collèges et d'écoles, on rentre, on se bouscule à la porte, on s'assoit, et la césure entre le temps du jeu et le temps du travail intellectuel qui nécessite une concentration sur un objet a disparu. Alors je ne suis pas du tout favorable à ce qu'on réinstalle d'une manière autoritaire l'obligation de rester debout 5 secondes et d'attendre en silence que le maître dise de s'asseoir. Mais je suis extrêmement favorable à ce que l'on pose la question comment ritualiser suffisamment le fonctionnement de la classe pour qu'entre le temps du jeu et le temps du travail, il y ait un sas qui permette de passer d'une attitude mentale à une autre. Alors ça va peut-être être un instant de réflexion, une réponse à une question écrite, une méditation sur une phrase qui sera proposée, mais il faut ritualiser cela. Je prends un autre exemple tout bête, je ne suis pas favorable au fait de reproduire ces cérémonies de distribution des prix. Il n'empêche que les cérémonies de distribution des prix étaient des occasions pour que l'ensemble des élèves d'un établissement voient ensemble l'ensemble des professeurs de l'établissement et que cet établissement marque son identité, qu'il y ait véritablement... Cette cérémonie a disparu et, problème, il n'y a plus d'occasion où l'ensemble des élèves voit l'ensemble des professeurs, reconnaît l'ensemble de l'équipe éducative dans sa totalité. Il y a même très peu d'occasions où l'ensemble des élèves d'une classe dans un lycée ou dans un collège rencontrent l'ensemble des professeurs de la classe. Je crois qu'il faut des rites, il faut organiser le rituel scolaire. Il n'y a pas de société sans rites et je suis très frappé de voir que quand les adultes, sous prétexte qu'ils sont désuets, abandonnent les rituels scolaires traditionnels, ils laissent les enfants organiser des rituels qui, eux, ne sont pas finalisés. Comme je le dis de temps en temps à des enseignants, à des jeunes enseignants en formation tentés, entre guillemets, par ce qu'on pourrait appeler la non-directivité, laisser traîner le pouvoir, il y a toujours un petit salaud pour le ramasser.
Dernière question, madame.
Oui, je vais me permettre de dire d'où je parle, parce que je suis enfant d'immigrés juifs polonais et j'ai bénéficié de l'école communale française de la suite. J'étais en cours complémentaire. J'ai accédé à l'université. Je suis chercheur au CNRS et j'habite le 5e arrondissement. Pourquoi je dis tout ça ? Parce que je pense que... je suis contente que les questions qui me paraissent fondamentales, à savoir les rapports de l'école et de la nation, encore, je ne suis pas sûre que la notion de nation soit une chose très comprise, justement, à l'heure actuelle, et peut-être est-ce que c'est un problème. Donc je suis assez contente que, quand même, certaines questions ont été posées, d'abord par le monsieur qui parlait du foulard, ensuite un peu par le monsieur brésilien et ensuite aussi justement pour ce qui est des rapports de l'école. Et alors j'ai pas envie de parler de culture seulement, j'ai envie de parler d'histoire, parce que moi il me semble que l'école française en ce moment il y a un vrai problème, c'est que il y a une tradition française qui est que l'accession à certains postes se fait par des diplômes lesquels sont délivrés par l'école. Donc il se passe un phénomène quand même que moi je qualifierais, parce que j'y participe, de ghettoïsation blanche également. C'est-à-dire que moi quand je vois mes collègues comme ils savent garder leurs gosses au chaud et comme ils seront ceux-là sauvés, je trouve que c'est un peu contradictoire avec ce qu'on a entendu de l'école jusqu'à présent. Donc plutôt qu'il y ait d'hétérogénéité des cultures, moi je préférais qu'on parle de mixité sociale, parce qu'il faut appeler un chat un chat. Et moi, il y a quelques réflexions. Je vais en vacances avec d'autres gens en particulier. Chaque année, je retrouve un institut qui est du Pas-de-Calais. Et de lui, j'apprends l'état des lieux. Et de façon très, très, très claire. Et en particulier, moi, il y a une chose que vous parliez de les traditions qu'on avait dans les familles, de certains types de cultures. Moi, on m'a appris à être honnête, à dire bonjour, etc. Mais parce que, grosso modo, on avait le gîte, on travaillait, on avait un métier, etc. Moi, il y a une chose que j'ai trouvée fondamentale, c'est le jour où j'ai appris qu'un gosse qui allait à l'école était le seul qui se levait le matin. Donc le premier rite, déjà, n'était pas là. Voilà. Alors, ceci étant, quand on regarde la couleur, par exemple, moi je suis assez militante, je vais à des manifs. Maintenant, j'ai un critère très simple pour savoir si la manif est populaire, je regarde la couleur en moyenne. Et ça parle, hein. Je veux dire, les jeunes, quand ils ont protesté contre le SMIC qu'on voulait leur ravaler, c'était très coloré. Mais c'était des gens qui avaient déjà une formation technique et qui savaient se battre pour leur travail. Moi, ce que je souhaiterais de l'école, parce que c'est un lieu où finalement on faisait aussi de la formation d'adultes le soir, c'est qu'il y a des choses à faire au niveau des parents pour ne pas les laisser dans leur état d'émission. Et en particulier au niveau de l'histoire, moi ce que je pense profondément, c'est que la France n'a pas fait encore elle en est encore à Vichy. Donc moi quand j'ai commencé, ma scolarité, l'empire colonial était intact. Et que je pense qu'en direction des parents, il y aurait une histoire de la France d'après-guerre qui serait à faire et qui serait absolument avec beaucoup d'effets sur les générations à venir. Voilà.
Oui, moi je ne peux qu'adhérer à votre point de vue sur la question de l'histoire. Et j'ai eu écrit parce que c'était... À l'époque, quand j'avais rencontré et travaillé un petit peu avec Jérôme Brunner, un point qui nous tenait beaucoup à cœur, que d'une certaine manière, l'histoire devait être la seule discipline à enseigner à l'école. On pouvait pratiquement enseigner tout par l'histoire. En tout cas, je suis convaincu comme vous que l'histoire de la décolonisation, par exemple, reste à faire, et qu'il y a un vrai travail qui peut être élaboré dans les expériences que j'ai pu suivre. Je dis expérience, c'est un terme que je n'aime pas, mais je n'en trouve pas d'autres, dans les initiatives pédagogiques avec lesquelles j'ai pu travailler, en particulier dans des quartiers colorés, comme vous dites, nous nous sommes aperçus à quel point, pour beaucoup d'élèves, un phénomène historique aussi simple que l'abolition de l'esclavage n'était pas ni perçu ni compris. Cette histoire-là même avait été d'une certaine façon censurée ou en tout cas pas suffisamment explicitée. Il y a un vrai travail d'histoire à faire avec eux pour qu'ils retrouvent aussi leur propre histoire, ces gens-là, et que nous puissions d'une certaine manière nous réconcilier, entre guillemets, mais pas sur des malentendus ou sur des oublis. On ne se réconcilie jamais valablement sur des oublis, sur des impasses ou sur des malentendus. On ne se réconcilie que sur la connaissance de ce qui nous a construit les uns et les autres et qui nous permet de comprendre ce que nous sommes aujourd'hui. Donc je ne peux qu'abonder d'une manière extrêmement forte dans votre sens.
Philippe Mérieux, merci.